Vous écoutez RTL.
Il n'y a pas la main sur le...
Non, mais quand même, c'est l'hymne du Panama, parce qu'effectivement, on va vous raconter l'un des plus grands scandales de l'histoire de France, le scandale de la construction du canal de Panama. Il a été inauguré en 1914, Marc de Banville. Vous êtes journaliste, vous êtes historien, et vous vivez au Panama une bonne partie de l'année, c'est ça?
Alors ça dépend un petit peu. En fait, j'y ai habité pendant 14 ans, mais là, ces dernières années, mes enfants étant au lycée, je vis principalement à Paris.
Oui. Et il faut, avant de raconter l'histoire, faire un peu de géographie, pourquoi cet endroit, ça a une importance politique, économique?
Cet endroit est juste stratégique. Regardez un globe terrestre et vous voyez, c'est l'endroit le plus fin, l'endroit où les océans Atlantique et Pacifique sont le plus proches l'un de l'autre.
Faut qu'on situe bien le Panama quand même.
Le Panama, si vous voulez, au sud, c'est la Colombie. Au nord, c'est le Costa Rica et c'est l'Amérique centrale qui commence à partir de là. Puis après, ça s'élargit sur l'Amérique du Nord. Et au sud, ça s'élargit aussi à partir de la Colombie sur l'Amérique du Sud. Mmh. Et donc, c'était trois ponts, cette langue de terre qui est caractérisée comme étant le Panama, que les Indiens appelaient Panama, ce qui voulait dire abondance de papillons et abondance de poissons. Et en fait, les Indiens connaissaient le passage entre les deux mers bien avant les Européens, depuis toujours.
Ils passaient comment ?
À pied. Mmh. À pied, en pirogue. C'est-à-dire qu'on remontait en pirogue la rivière Chagres, qui est la grande rivière qui alimente le canal, sans lequel le canal ne serait pas possible, et qui se débouche dans l'Atlantique. Ils le remontaient.
Mais il y a combien de kilomètres entre les deux océans,
l'endroit le plus étroit, de côte à côte, il y a une cinquantaine de kilomètres.
Est-ce qu'il y a eu des projets farfelus, Marc de Banville, avant que Ferdinand de Lesseps, dont on va parler évidemment abondamment, lance son projet?
Il y a eu tout un tas d'idées farfelues. Le premier à avoir une idée saugrenue de faire un canal, c'était Charles Quint.
Ah oui, quand même.
Donc, au XVIe siècle, qui a eu l'idée de faire un canal. C'était son idée. Puis après, ils ont abandonné l'idée. Alors, officiellement, c'était parce que Dieu interdit d'unir ce qui a été séparé. D'accord. Et officieusement, c'est parce qu'ils se rendaient bien compte qu'un canal, ça risquait de donner des possibilités à leurs ennemis d'accéder à leurs terres, qui étaient celles de l'or, du Pérou et de la Bolivie.
Il y a eu d'autres projets comme ça?
Alors après, il y a eu des projets absolument farfelus. Les Écossais ont essayé d'en faire un. Il y a eu un Français qui avait imaginé une ville octogonale au milieu de la jungle. À partir de la moitié du 19e siècle, dans cette période un peu de Jules Verne, on croyait que tout était possible. Il y a eu plusieurs projets qui imaginaient de transporter les bateaux sur des trains. Donc un projet de canal sec. Même encore récemment, dans les années il y a moins de 20 ans, si vous voulez, c'est encore un projet qui est à l'étude, parce qu'effectivement, les coûts, selon certains endroits, peuvent s'équilibrer.
Alors, on en parle maintenant parce qu'il a été inauguré, ce canal de Panama, il y a un siècle, à quelques mois près. C'était en août 1914.
Le 15 août 1914. J'y étais, bien évidemment, avec mes amis de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et le canal de Suez.
C'était qui, Ferdinand de Lesseps? Allez, on rentre dans le
vif. Ferdinand de Lesseps, c'est pas un ingénieur. Ferdinand Lesseps, c'est un diplomate. C'est quelqu'un qui arrive à négocier des situations difficiles. Et en plus, Ferdinand Lesseps, c'est quelqu'un qui a une très grande idée de sa personne. Donc, non seulement il a réussi, mais presque par miracle, à réaliser le canal de Suez, mais à 75 ans, il avait l'idée d'en faire un deuxième à Panama. Et en fait, il va utiliser pratiquement les mêmes recettes que pour Suez, et ça aurait pu réussir.
Alors, quelles étaient ces recettes qu'il utilise, Ferdinand de Lesseps?
Ce sont des recettes de promoteurs, ça veut dire que des recettes de battleurs, c'est-à-dire qu'à la fois d'un côté, il a réussi en gros à envoyer des explorateurs qui avaient un projet qui n'était pas complet, mais quand même à réussir à le faire passer dans un congrès international de géographie spécialement dédié au canal.
Mais d'abord, il faut comprendre, qu'est-ce qui décide comment on va trouver l'argent? Qu'est-ce qui décide qu'il faut partir comme ça dans la jungle d'Amérique centrale pour creuser un canal?
Personne ne décide comment on va trouver l'argent. Si vous regardez comment Ferdinand de Lesseps a réussi à monter le canal de Suez, qui donc s'est inauguré en 1869, après pratiquement 20 ans d'efforts et après toute une vie, parce qu'en fait, Ferdinand de Lesseps connaissait l'Égypte depuis qu'il était tout jeune. Trouver les fonds, c'était un peu son génie de battleur. Il savait aller au-devant des gens, il savait les convaincre pour des projets un peu fous. Mais la vérité, c'est que Suez aurait très bien pu échouer.
Mais quand il lance, Ferdinand de Lesseps, ce projet de construction du canal de Panama, il a des concurrents, il a des opposants à ce projet, à son projet?
Au moment où il le lance, personne n'a commencé ou n'est vraiment rentré en réalité pour faire un canal. Parce que c'est trop cher, en plus parce que c'est compliqué. Et puis en plus, si vous voulez, la puissance la plus intéressée directement par un canal sont les États-Unis. Or, les États-Unis, ils ne sont pas prêts. Ils ne seront prêts qu'à la fin du 19e siècle. Pour le moment, ils ne sont pas prêts. Ils ont signé avec l'Angleterre un traité disant qu'ils vont faire un canal Nicaragua ensemble. Mais tout ça, c'est pour éviter que l'Angleterre le fasse avant eux. Les États-Unis, ils veulent, et ils insistent, ils sont très clairs là-dessus, ils veulent un canal qui soit sous leur contrôle. C'est une question de sécurité nationale. Il faut qu'eux le contrôlent et le protègent. C'est le deal de base.
Donc Ferdinand de Lesseps, il a des concurrents en interne. Par exemple, en France, il y a d'autres compagnies qui veulent se lancer sur
la fabrication
de ce canal de Panama.
Il y a eu d'autres compagnies qui se sont lancées. Si vous voulez, le 19e siècle, c'est un siècle où tout le monde essaye de faire les grands projets. Il y a au moins une quinzaine de projets différents autour du Panama, de canaux interocéaniques. Il y en a certains qui ont commencé, enfin commencé en général. Il n'y a même pas eu un coup de pioche. Hein. C'était l'idée de commencer à regarder, de préparer les choses, etc. Ferdinand Lesseps, c'est le premier qui va vraiment sérieusement. Et il va transformer l'isthme de Panama. Et le travail qui a été fait au Panama, personne ne s'en rend compte en France parce qu'on ne se rappelle que le scandale. Le travail est extraordinaire. C'est pour ça que moi, dans ce bouquin, je l'appelle un splendide échec. Parce qu'en fait, c'est un échec, bien entendu. Mais c'est un échec qui, en lui-même, est porteur de tout le futur qui fait qu'aujourd'hui, Panama est un pays absolument extraordinaire.
Marc de Banville, le canal de Panama, un siècle d'histoire, c'est aux éditions Glénat.
Les travaux pour creuser le canal de Panama sont loin de commencer. Il reste beaucoup d'obstacles à lever. Mais ce qui est sûr, vous en parliez, Marc de Banville, c'est que tous les ingrédients du scandale sont déjà réunis. Restez avec nous sur RTL.
C'est jusqu'à 16h sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Des cargos, hauts comme des immeubles, doivent transporter des tonnes de marchandises dans les délais les plus courts.
La curiosité est un vilain défaut.
Chargés à bloc, ils entrent sur une voie navigable parmi les plus fréquentées au monde.
RTL.
Le canal de Panama.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Il y a 100 ans, tout juste, les Américains inauguraient le canal de Panama. Mais comment les Français, qui étaient en avance sur ce projet, ont-ils laissé passer leur chance? C'est ce qu'on vous raconte avec Marc de Banville, journaliste et historien qui publie « Le canal de Panama, un siècle d'histoire » chez Glénat. Alors, on en parlait, Marc de Banville, l'homme clé du projet français, c'est Ferdinand de Lesseps. Et en 1879, il va jouer gros devant le congrès de la Société de géographie de Paris. Pourquoi? Racontez-nous cette scène.
Ouais, si vous voulez, à la base, Ferdinand de Lesseps, au 19e siècle, au moment du congrès de Paris, c'est une star mondiale. C'est-à-dire, c'est le seul homme sur Terre qui a réussi à construire un canal entre deux grandes mers. C'est un véritable héros à la Jules Verne, grâce au canal de Suez. Donc, il a vraiment un prestige absolument extraordinaire. Donc, on l'invite toujours, il est toujours, chaque fois qu'on parle de question de canaux, le seul qui peut en parler de façon valide, c'est Ferdinand de Lesseps. Donc tout naturellement, il est président du jury qui a examiné les diverses routes. Et,
parce que ce congrès de la Société de géographie à Paris, il se réunit pour quoi? Pour décider
pour
d'un
décider
projet
de la, quelle est la meilleure route, combien en gros est-ce qu'elle va coûter, quels sont tous les aspects qui vont être à prendre en compte, si vous voulez. Il faut bien être très
pour
clair, la
canal.
Géographie, ça intéresse d'abord les militaires, ensuite les hommes d'affaires et les spéculateurs.
Bien sûr.
Donc bon, c'est tout ce monde-là qui est intéressé forcément. Et puis les explorateurs, et puis les gens un peu fous. Mais et c'est tout ce monde-là qui va se réunir à Paris, donc en mai 1879, dans les tout nouveaux locaux de la Société de Géographie. D'ailleurs, ce livre a été écrit grâce à la Société de Géographie, grâce aux archives de la Société de Géographie. Donc c'est dans ces locaux même que Ferdinand de Lesseps, en tant que président du jury et président du Congrès international du canal interocéanique, va réunir des spécialistes du monde entier. Et donc, au début, il y a plein de projets qui sont examinés. Puis en fait, au bout du compte, ça va se limiter à l'opposition entre deux projets. D'un côté, les États-Unis, avec un projet, on va dire, officiel d'un canal avec nombreuses écluses entre le Pacifique et l'Atlantique qui passerait par le lac Nicaragua, un canal de 280 km de long. Et de l'autre côté, un canal sans écluses, mais alors avec ou sans tunnel, etc., présenté par deux explorateurs français, Lucien Napoléon Bonaparte-Wise et Armand Reclus, qui sont allés pendant deux saisons.
Lucien Napoléon Bonaparte-Wise. Donc c'est Quelle relation de famille avec...
C'est un petit-neveu de Napoléon.
Petit-neveu voilà, de Napoléon Ier, d'accord. Okay. Oui.
Et donc, ils sont allés explorer la jungle du Darien. Puis finalement, ils ont vu que c'était au centre de l'isthme, là où il y avait déjà un chemin de fer qu'il fallait creuser. Mmh. Et donc, ils reviennent avec des projets. Mais les deux, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment ingénieur. Donc, leur projet, si vous voulez... il est moins crédible.
Alors Ferdinand de Lesseps, lequel des deux projets il préfère finalement?
Pour Ferdinand de Lesseps, c'est très simple. Un canal doit être a priori sans écluse comme à Suez. Hein, l'idée c'est
pour nous, pour qu'on comprenne,
rien ne peut s'opposer au passage du libre commerce. Il faut que ce soit un détroit, un Bosphore des océans. Mmh. D'accord? Ça, c'est l'idée de base de Ferdinand de Lesseps. C'est celle qui va lui coûter si cher ensuite parce qu'il aura du mal à revenir là-dessus. Il a 75 ans au moment où il lance ce projet. D'accord, il va en avoir 85 au moment où ça flanche.
Donc il préfère ce projet, celui sans écluse, c'est ça, celui des deux explorateurs français?
Absolument, mais lui, il a suggéré ce projet-là.
Oui. Et alors, en fait, il lance une souscription, c'est ça?
Avant même de lancer une souscription, non, il y a une réunion qui se fait à Paris. À partir de là, ce sont des projets. Mmh. Il y a un congrès qui va essayer d'évaluer, il y a plusieurs commissions. Et donc Ferdinand Lesseps, en tant que grand diplomate, il veut faire le canal par le Panama. Mmh. Donc, il va négocier. Et en fait, le canal américain va recevoir l'appui de nombreux ingénieurs, dont, par exemple, Gustave Eiffel, mais aussi de grand nombre d'ingénieurs de l'époque, parce que c'est un projet sérieux qui est basé sur la construction d'écluses. Les ingénieurs adorent construire des écluses. Donc, ils adorent ce projet. Mmh. Alors que les explorateurs et certains hommes d'affaires, plus ou moins véreux d'ailleurs, mais avec des grands intellectuels, avec Littré, avec qui s'associent aussi avec des gens nettement moins clairs, comme Cornelius Hertz, qu'on va retrouver à la fin, le baron de Reynac, qui va être aussi impliqué dans le scandale.
Et tous ces gens-là, ils sont avec Ferdinand de Lesseps.
Ils sont avec Ferdinand de Lesseps. Et Ferdinand de Lesseps réussit à manœuvrer le congrès en tant que grand diplomate, de façon à ce que le projet soit adoubé. Mmh. Et lors du vote solennel, il dit « je vote oui ». Et d'ailleurs, j'ai accepté de prendre la tête de l'entreprise.
Alors, une fois
et
que donc, ce projet est voté, la construction du canal de Panama nécessite évidemment de l'argent. Comment est-ce qu'il va réunir tout cet argent, Ferdinand de Lesseps?
Ferdinand de Lesseps, il a l'idée de faire comme à Suez. C'est-à-dire, à l'époque de Suez, c'était simple. Ferdinand de Lesseps prenait son bâton de pèlerin. C'est quelqu'un avec un charisme extraordinaire. À l'issue du congrès de Paris, Gambetta va le surnommer le grand français. C'est quelqu'un qui, non seulement a une forte idée de lui-même, mais en plus, il a vraiment une force de conviction. Donc, il prenait son bâton de pèlerin, il allait faire des réunions publiques partout en France, il vendait son idée du canal de Suez directement aux gens qui achetaient des actions. Et là, en 1879, dès que le congrès passe, il commence à faire la même chose pour le Panama. Sauf que, en 10 ans, le milieu bancaire a changé. Avant, c'était la grande banque, des gens riches qui avançaient de l'argent à l'État. Personne ne s'intéressait à la finance de monsieur tout le monde. Mais là, les banques de guichet, elles ont ouvertes. Elles ont été formées. Elles sont fortes. Et elles voient ce monsieur qui dit « Attendez, il veut vendre des actions à nos clients. Je suis désolé, il faut qu'il passe par nous. »
Et donc, il va y avoir un bras de fer entre les banques et Ferdinand de Lesseps. C'est l'une des explications du scandale de la construction du canal de Panama que l'on vous raconte sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous écoutez RTL.
Le canal de Panama.
La curiosité est un vilain défaut.
Depuis un siècle, c'est le premier raccourci maritime au monde. Mais si les infrastructures de ce canal ne se modernisent pas, la marine marchande est prête à s'en détourner.
Soyez fiers d'être curieux. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous raconte l'un des plus grands scandales de l'histoire de France, celui du canal de Panama, avec Marc de Banville, qui est historien, qui est journaliste, qui connaît très très bien le Panama encore aujourd'hui. Marc de Banville qui publie Le canal de Panama, un siècle d'histoire chez Glénat. Alors, il va falloir avancer un petit peu dans le temps pour expliquer comment ce scandale va éclater. Il y a quoi? Il y a eu plusieurs souscriptions, il y a eu des travaux qui ont commencé, mais des difficultés. Il a fallu quoi? Appeler Gustave Eiffel en renfort, c'est ça le...
En gros, c'est ça. Mais alors, si on veut, si vous voulez, c'est un peu comme à Suez aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des difficultés qui ne sont pas prévues. Et là, en plus, c'était un terrain totalement nouveau, un terrain avec une jungle dense, avec 100% d'humidité, 31 degrés, avec des fièvres jaunes et malaria qui étaient fort différentes des épidémies qu'il a pu connaître à Suez. Un terrain sur lequel il fallait faire de gros travaux avant de pouvoir même faire des études valables. Donc, si vous voulez, ça prend 2-3 ans de départ. Et si vous voulez, comme de Lesseps avait été, en gros, avait échoué son premier tentative de lance, sa première tentative de lancement en 79, pour la seconde, il avait organisé tout un tas de choses, il avait diminué le budget. C'est-à-dire le congrès de Paris de 79 avait dit ça va coûter 1 milliard 200 millions de francs et ça va prendre 12 ans. Lui, il est revenu en disant ça va coûter, en gros, il a baissé plusieurs fois. À la fin, il dit voilà, Couvreux et R100, l'entreprise qui a fini Suez, s'engage à faire le tout pour 500 millions. Et en 1888, on va ouvrir. Donc 8 ans après. Donc si vous voulez, ça, ce sont des artifices de battleur, c'est un promoteur.
Oui, mais ensuite, il y a la réalité du terrain, qu'est-ce qui se passe?
Et la réalité du terrain, c'est que c'est difficile. Et la réalité du terrain, c'est tellement difficile que les gens qui sont sur place écrivent et disent à de Lesseps, il faut les écluses, les ingénieurs, etc. Et de Lesseps, qui avait gagné au Congrès de Paris, on s'en rappelle, hein, justement, en disant que là, il n'y en aurait pas, sauf qu'il recule tellement... Ben, il est obligé parce qu'à la fin, si vous voulez, il essaye de réussir le canal de Panama comme il a réussi Suez. C'est-à-dire sur une émission d'obligations qui sont à la fois les obligations et les billets de loterie. C'est grâce à ça qu'il a terminé le canal
de Suez.
Comment
ça, des billets de loterie ?
Absolument.
Racontez-nous.
C'est-à-dire, vous achetez une obligation et elle a un numéro. Et bien ce numéro, en fait, il y avait 2 millions d'obligations, 2 millions de petits papiers qui étaient roulés, qui étaient mis dans une grande roue transparente et qui tournait, et si votre numéro sortait, non seulement votre obligation était entièrement remboursée, mais en plus, vous pouviez gagner jusqu'à un demi-million de francs.
Donc, ça, si ça marche ça, les Français achètent?
Ah ben, les Français ont adoré pour Suez, et ils étaient tout à fait prêts à le prendre. Le seul différence, c'est que, comme c'est un jeu, vous avez besoin d'une autorisation de l'État. À l'époque de Suez, c'était le Second Empire et Napoléon III. Et il se trouve que l'impératrice était la famille de Lesseps. Il n'y avait pas eu de problème. Là, on est dans la troisième et la troisième république la plus corrompue. Donc à partir de là, tous les députés veulent de l'argent. Et à partir de là, tout le monde commence à sortir de bois et à exiger à la compagnie de l'argent pour pouvoir les autoriser à émettre ces bons. En fait, la vérité, c'est que ce sont les banques qui ont lâché la compagnie parce qu'ils exigent que la compagnie vende tellement d'actions que c'en est totalement irréaliste. Et au moment où ils arrivent à vendre 70% des actions, les banques disent « ce n'est pas assez ». On se retire et la compagnie dépose le bilan.
Alors, combien d'argent est englouti dans cette affaire ?
1,280 milliards de francs de l'époque.
Du coup, le chantier de la construction du canal de Panama est interrompu ?
Le chantier de la construction s'interrompt brièvement, on va dire pendant 4 ans environ. Et il reprend à partir du moment où l'administrateur judiciaire crée une nouvelle compagnie qui s'appellera la compagnie nouvelle du canal de Panama, qui poursuivra les travaux jusqu'à ce que les Américains le reprennent en 1904.
Pourtant, ils n'y croyaient pas. Eux, ils voulaient passer, vous nous l'avez dit tout à l'heure, par le Nicaragua. Alors, qu'est-ce qui les fait changer d'avis ?
Jusque-là, ils n'étaient pas prêts. Parce qu'au 19e siècle, les Américains, leur guerre, ils les faisaient près de chez eux. Et à partir de 1898, ils vont rentrer en guerre contre l'Espagne. Et là, en quelques mois, ils vont faire main basse sur Cuba, Porto Rico, Guam et les Philippines. Schlac, schlac. Deux sur l'Atlantique, deux sur le Pacifique. Et à partir de là, les Américains, ils ont la Navy qui commence à être la force à prendre en compte à cette époque-là et qui dit on a besoin d'un canal.
Il faut parce qu'on passe facilement. Faut,
on veut opérer sur deux océans et il faut qu'on puisse passer l'un à l'autre. Il y a une partie des sénateurs, hein, là, on parle du Sénat, hein, le débat
d'accord.
de juin 1902, c'est les sénateurs,
oui.
qui sont intéressés par le canal du Nicaragua depuis toujours, parce que c'est plus proche de chez eux, parce qu'ils y ont des intérêts. Et il y a une autre partie des sénateurs qui, eux, vont avoir tendance à suivre Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, hein, le président du Big Stick, un président charismatique, qui, lui, veut le canal et veut le Panama. Donc il y a une loi qui arrive, c'est la loi sur le canal du Nicaragua, qui dit en gros, on autorise le gouvernement à creuser le canal du Nicaragua. Et en fait, il y a un amendement qui est placé, qui dit d'accord, mais d'abord on fait le Panama. Et donc c'est sur la base de cet amendement, qui va être voté à 8 voix de différence, que va se faire le canal de Panama. Et pour y arriver, il y a des débats qui sont monstrueux, qui sont un véritable exemple de lobbyisme politique, où tout va rentrer en jeu. Et à un moment donné, quelqu'un met sur le tapis le volcanisme au Nicaragua. Voilà, il y a des volcans qui sont actifs au Nicaragua. Et le président du Nicaragua dit non, pas du tout, ils sont tous morts. Et là, il y a Philippe Bunovarilla qui va trouver un timbre nicaraguayen
oui.
de 1901, où on voit un volcan actif.
La preuve.
La preuve, assortie d'une dépêche d'agence, elle, relativement douteuse, disant qu'il y aurait eu une explosion de ce volcan. Alors, il faut bien se rendre compte que ce débat, il arrive quelques mois après la Soufrière. L'éruption de la Soufrière, qui a été un véritable choc dans toutes les Amériques, avec des dizaines de milliers de morts. Il faut quand même qu'on s'en rappelle, il y a 30 000 morts dans cette histoire de la Soufrière. Donc effectivement, aux États-Unis, le Sénat, au moment de voter la loi, si vous voulez, le fait qu'il y ait un possible risque volcanique était quand même à prendre en compte.
Et c'est comme ça que finalement le Parlement américain va voter pour le projet du canal de Panama, qui va rester d'ailleurs américain pendant plusieurs décennies. Merci beaucoup Marc de Banville. Votre livre Le canal de Panama, un siècle d'histoire, est publié chez Glénat.
C'est la fin de cette émission. On revient demain de 15h à 16h, comme tout l'été. Il va falloir vous habituer. Avec au programme demain,
au programme les routiers, vous savez, ces restaurants qu'on est heureux de trouver sur la route de l'été.
Mimosa.
Bah oui, oh, j'adore ça.
Saucisse grillée.
Ah non, arrêtez, j'ai faim. Là,
purée.
C'est pas possible, j'ai mangé trop léger tout à l'heure, j'ai vraiment
mille
très très
feuilles.
Faim. Et puis je vous arrête avec un autre thème de l'émission de demain, un autre meilleur moment, la vie d'Edgar Hoover, qui fut pendant des décennies le grand patron du FBI. Bon après-midi, à demain, dans un instant.
Salut, salut.
Vos grosses têtes.
Vous écoutez RTL.